parler de l'aventure éditoriale de Philippe Kédic, et notamment l'aventure éditoriale de ce qui se passe aujourd'hui en France, puisque les éditions J'ai lu ont décidé de rééditer la quasi-intégralité des romans, parce que la quasi, puisqu'il en manque un, deux.
Non, plus sur les 44, on en fait 38.
Voilà, ils en font 38 sur les 44, avec deux nouvelles éditions, deux nouvelles traductions. Et on est avec nous Thibaut Eliroff, qui est le directeur de la collection Nouveau Millénaire chez J'ai lu, et qui travaille justement sur ce projet et qui nous fait le plaisir de revenir. Et c'est vraiment important parce que du coup, en très peu de temps, on a beaucoup d'actualités Philippe Kédic et de renouvellement Philippe Kédic qui arrive en librairie. Et peut-être une première question, qu'est-ce qui a justifié et ou du moins comment est née l'idée de se dire on va refaire ces 38 romans?
Tu disais juste à l'instant qu'on a décidé de refaire ces 38 romans. En fait, c'est un bien grand mot, on nous a quand même beaucoup forcé la main. Ce qui s'est passé, c'est que l'édition de Philippe Kédic en France était bien établie, c'était distribué chez plusieurs éditeurs qui faisaient chacun leur boulot, pas mal chez De Noël, un petit peu chez nous, quelques-uns chez 10-18, et ça roulait en quelque sorte. Et puis, les héritiers de Philippe Kédic ont décidé, il y a quelques années, de changer d'agent. Il faut savoir donc que la plupart des auteurs américains, surtout les grands auteurs, sont représentés par des agents, et ce sont ces agents qui traitent avec les éditeurs étrangers pour gérer les droits des auteurs. Donc les héritiers de Kédic ont changé d'agent, ils sont adressés à une très grosse agence qui a remis à plat tout ce qui se passait en France. Ils ont dit, voilà, on a un but qui est double. D'une part, on veut que tout Kédic soit chez le même éditeur, et d'autre part, on voudrait que vous fassiez émerger en France Philippe Kédic comme un grand auteur de littérature et pas comme un auteur de littérature de science-fiction. Il faut savoir que c'était le même agent que Ballard, justement, et qu'ils avaient fait exactement la même chose avec Ballard, et donc ils s'attendaient à ce qu'un éditeur français fasse la même chose avec Dick. C'est beaucoup plus difficile avec Dick, parce que, comme vous le savez, il y a quand même beaucoup de romans qui sont des purs romans de science-fiction, même certains de science-fiction, on va dire, un petit peu alimentaires. Hein, je ne voudrais pas trahir sa mémoire en disant ça, mais c'est bon. Et du coup, cette tâche-là n'était pas évidente. Et puis surtout, cette idée d'avoir tout chez le même éditeur, c'est assez complexe en France, puisque, comme je vous le disais, c'était assez éclaté. Et donc, l'agence Wiley, cette nouvelle agence, s'est adressée à tous les éditeurs de Philippe Kédic en France pour savoir lequel d'entre nous proposerait la meilleure offre qui irait dans ces deux sens, à savoir un maximum de livres et une ouverture vers un public plus généraliste. Sachant qu'évidemment, si on ne répondait pas oui à cette question-là, on perdait tous les livres de Philippe Kédic qu'on avait déjà dans notre fond, c'est-à-dire entre autres Le Maître du Haut-Château, Blade Runner, Le Dieu venu du Centaure, si je ne dis pas de bêtises, et puis quelques autres qui sont quand même des romans majeurs. Et donc voilà, c'est ainsi qu'on s'est retrouvé effectivement à acquérir donc, la totalité du catalogue. Ça n'a eu aucun sens dans la mesure où il y a beaucoup de livres qui sont publiés par De Noël, donc notamment les nouvelles, mais aussi la trilogie divine, qu'ils exploitaient fort bien avec de bonnes traductions, donc il n'y avait absolument aucune justification à les refaire une nouvelle édition aujourd'hui. Donc voilà, on s'est vraiment arrangé avec De Noël pour qu'ils gardent les leurs, on garde les nôtres, on acquiert en plus tous ceux qui étaient chez d'autres éditeurs, sauf Ubik. Voilà, et donc il s'est passé comme ça. Donc on s'est retrouvé avec un catalogue de 38 titres à publier sur une période de 2 ans, et c'est comme ça qu'est donc né ce projet. Alors tous les romans ne peuvent pas se traiter de la même manière. Il y a des romans généralistes, il y a des romans de science-fiction, il y a des romans qui sont des chefs-d'œuvre, il y en a d'autres qui sont moins percutants. Donc évidemment, on ne peut pas les traiter tous de la même manière. Donc nous, le choix qu'on a fait, c'était de justement prendre les chefs-d'œuvre et en faire une nouvelle édition dans la collection Nouveau Millénaire, comme Le Maître du Haut-Château, avec une toute nouvelle traduction, quand ça se justifiait, et il me semble que sur Le Maître du Haut-Château, mais on peut en parler après, ça se justifie, de prendre les romans généralistes et de les publier en poche en collection de littérature générale, comme c'était déjà avant le cas chez 18, par exemple. Et puis, le gros des romans de SF, les publier en omnibus, comme ici, c'est-à-dire en volume compilant à chaque fois 5-6 romans. Alors là, évidemment, pour l'économie du projet est telle, mais ça, je ne peux peut-être pas rentrer dans les détails, qu'on n'aurait pas pu les retraduire intégralement, ou alors il aurait fallu vendre le bouquin à 40 ou 50 euros. Donc c'est une révision de traduction, c'est-à-dire qu'on prend la traduction originale, on prend la VO à côté, et puis on regarde tout ce qui ne va pas et on essaie de réécrire ça dans un très bon français, dans le meilleur français possible compte tenu des circonstances. Voilà.
Globalement, sur ces 38 bouquins, qui a été un petit peu l'état, il y avait beaucoup de boulot à faire au niveau des traductions, tu parlais de révision de trad, et qu'est-ce qui a poussé, par exemple, le maître du Haut-Château à retraduire entièrement l'ancienne tradition, et la traduction était vraiment si mauvaise que ça?
J'aime pas dire du mal, mais bon, faut reconnaître qu'il y avait pas mal de boulot. En fait, c'est pas spécialement spécifique à Dick, c'est qu'il y a eu toute une période assez noire pour la SF en France, dans les années, on va dire, 70, 80, début 90, où la traduction était considérée comme comme la SF était considérée comme un genre mineur, les traducteurs déjà étaient moins payés qu'en littérature générale, d'une part, donc ils y passaient moins de temps, et puis surtout, c'était un petit peu le truc à faire pour boucler les fins de mois qu'on pouvait. Là-dessus, il y avait aussi des contraintes éditoriales très fortes, des contraintes d'encombrement, qui font qu'à un certain moment, il y avait certains livres, il fallait qu'ils fassent 256 pages et pas 320. Et du coup, on coupait très très largement. Donc on se retrouve avec pas mal de bouquins dont la traduction n'est pas complète, tout simplement, d'une part. Et effectivement, en fait, il faut reconnaître un petit peu la vie. C'est pas vrai pour tous, hein, évidemment, il y a aussi de très bonnes traductions datant de cette époque-là, mais c'est vrai pour beaucoup de livres. Et Dick a été principalement traduit à cette époque-là aussi. Donc il y en a certains qui sont très bien, et puis il y en a d'autres, il y a du boulot. Le maître du Haut-Château, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on comparait la VO et la VF, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de contresens, que l'écriture était parfois un petit peu obscure, qu'il fallait clarifier certains passages. Il manquait un petit peu de texte, mais pas grand-chose. C'était plus des bouts de phrases à droite à gauche. Mais surtout, ce qui me semblait le plus grave, c'est que les contresens qu'on y trouvait orientaient la lecture dans un sens qui me semble pas vraiment correspondre au livre lui-même. C'est-à-dire que moi, je considère qu'il y a un malentendu au sujet de ce livre qu'on présente rapidement, toujours en disant c'est le prototype de l'Uchronie. Les Allemands ont gagné la Seconde Guerre mondiale, on connaît l'histoire. Et c'est vrai, c'est de ça que parle le livre, mais pas tant que ça finalement. C'est-à-dire que c'est un décor qu'il a placé là pour aborder d'autres sujets qui me semblent beaucoup plus complexes. Et il ne va pas creuser énormément cette idée. Donc pour moi, c'est pas tant une uchronie que ça. Il y a toutes ces questions, notamment de toute la façon dont il traite la culture japonaise, la culture chinoise avec le Yi Qing, tout ça. Et ça, le traducteur précédent était passé complètement à côté. Tout ce qu'il a raconté sur le Yi Qing était au mieux approximatif, au pire faux. Et c'est pour ça qu'il nous a semblé vraiment important de revenir à l'origine du texte, parce que lui, il ne dit pas du tout de bêtises sur le Yi Qing. Il est très très bien renseigné pour justement rendre honneur à ce sujet.
Une petite question, tout simplement, il y a deux chapitres de ce qui aurait dû être la suite du maître du Haut-Château. Alors, dans quelles circonstances est-ce qu'ils ont été retrouvés? Et qu'est-ce qu'ils donnent comme indication?
Alors, ces deux chapitres apparaissent dans un recueil d'articles américains dont Laurent va me redonner le nom parce que je ne l'ai plus.
J'ai aussi. Mais en fait, c'est Pierre Paul qui m'a donné. Ouais, d'accord.
Pardon ?
C'est pas Foundation ?
Non, c'est The quelque chose à Philippe Cadic.
Non, c'est pas Foundation.
Et donc moi je ne les connaissais pas du tout, et c'est justement Laurent qui, par Pierre-Paul du Restanti, visiblement, en a eu connaissance et les a portés à ma connaissance. Et donc ce sont deux chapitres, effectivement, qui démarrent une suite, un chapitre 1, un chapitre 2, qui n'ont pas été écrits de manière consécutive, mais au contraire à plusieurs années de distance. Et alors, qu'est-ce que ça raconte? Ça augure d'un livre beaucoup plus de science-fiction, peut-être beaucoup moins de réflexion, peut-être plus, peut-être un livre plus d'action, je sais pas, on peut imaginer ce que ça serait devenu. En fait, il imagine que les Allemands ont mis la main sur une espèce de portail dimensionnel qui permet de passer de leur monde au monde décrit dans Le Poids de la Sauterelle, à savoir ce monde où les Alliés ont gagné la Seconde Guerre mondiale, mais qui n'est pas tout à fait le nôtre non plus. Et que donc les nazis ont envoyé deux éclaireurs, deux agents pour aller voir comment c'était là-bas et comment ça fonctionnait. Et c'est le premier chapitre de roman, débute sur le retour de ces agents qui font leur rapport à Göring, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, c'est Göring ? Oui, voilà. Et voilà, donc on peut imaginer effectivement qu'il aurait pu développer toute une histoire avec les deux mondes parallèles, avec les nazis qui auraient essayé de conquérir ce monde qu'ils n'ont pas conquis, puisqu'il est un petit peu différent du leur. Mais il n'a pas continué parce qu'il a expliqué que ça lui avait beaucoup coûté pour le maître du haut château de se plonger dans la psychologie nazie, du moins ce qu'il considérait comme tel. Qu'il aborde d'ailleurs finalement assez peu, il évite beaucoup le sujet puisqu'il parle beaucoup plus de ce qui se passe à l'ouest des États-Unis qui est occupé par les Japonais. Mais néanmoins, il en parle quand même un petit peu et ça l'a semble-t-il troublé. Et se replonger une deuxième fois dans cette psychologie-là, visiblement c'était trop dur pour lui et il a décidé finalement de ne pas le faire. Il a essayé une deuxième fois en écrivant le deuxième chapitre quelques années plus tard et puis non, ça n'est pas allé plus loin.
Une petite question sur... Alors, il y a un autre titre que vous venez de sortir, c'est « Aux nations sans pudeur ». Alors, pareil, si je dis pas de bêtises, c'est un inédit.
Tout à fait.
Alors, dans quelles circonstances ça a été trouvé? Et puis, qu'est-ce qui vous a, vous, donné envie de le publier? Est-ce que c'est un roman important?
À la fois oui et non. En fait, c'était le seul roman inédit de Philip K. Dick en France. Tous les autres sont sortis. Il est sorti aussi aux États-Unis de manière posthume. C'est son premier roman, c'est-à-dire que c'était au tout début de sa carrière où il voulait faire, comme on l'a dit tout à l'heure, il voulait percer dans la littérature classique généraliste. Et donc il a écrit ce premier roman qu'il a envoyé à plusieurs éditeurs qui lui ont refusé. Et donc c'est resté dans un tiroir jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort en fait. Et c'est quand on a retrouvé tout ce matériel. Parmi les innombrables piles de documents qu'il avait pu rédiger, on a retrouvé également ce roman. Bon, j'y étais pas, hein, bien sûr. Et donc, des éditeurs l'ont sorti. C'est un peu triste d'une certaine manière, parce que c'est un premier roman qui a les défauts d'un premier roman. C'est-à-dire qu'évidemment, son écriture n'est pas maîtrisée, son intrigue peine à se mettre en place. C'est un livre qui aurait pu devenir quelque chose de très fort si derrière il y avait eu le travail d'un éditeur qui aurait bossé avec Dick, qui aurait dit ben voilà, fais ton histoire comme ci, comme ça, revois tes personnages, là t'as pas bien écrit, réécrit. Travail classique d'un éditeur, ça aurait pu donner quelque chose. Le problème, c'est qu'évidemment, une fois qu'il a été mort, c'était pas possible et il avait entre-temps acquis le statut d'auteur culte, donc il était hors de question de retoucher à son texte alors que lui-même ne pouvait pas dire oui ou non. Donc le roman est sorti comme ça, et voilà. Donc est-ce que c'est un roman important? Oui, dans la mesure où c'est le premier roman de Philip K. Dick, quoi qu'on en dise, ça reste son premier roman. Est-ce que d'un point de vue littéraire, c'est un grand roman? Non. Après, je pense que c'est intéressant pour le public dickien, qui pourra y trouver des embryons de tout ce qu'on va trouver après chez lui. C'est-à-dire qu'il s'intéresse déjà à la culture orientale, puisque, en fait, je vous raconte en quelques mots l'histoire. C'est en 1948 ou 49, alors que la République populaire chinoise vient d'être proclamée. Toutes les entreprises étrangères, notamment américaines, qui sont sur ce territoire, sont tout simplement mises à la porte. Et donc, ce sont des Américains qui se trouvent là-bas, qui évacuent un grand complexe industriel. Sauf qu'on va laisser sur place trois personnes, deux hommes et une femme, qui seront là pour, en gros, garder la boutique tant que les Chinois arrivent et prennent les clés du complexe. Et donc, ils vont rester une semaine ou deux semaines, je ne sais plus, dans ce complexe, au plein milieu d'une espèce de jungle, paumé au milieu de la nature. Il fait extrêmement chaud, c'est lourd, c'est moite, c'est propice, on va dire, aux tensions entre les personnages. Et
moi si j'ai perdu mon fil. Et donc, ouais. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver le trio de personnages qu'on retrouvera après dans pas mal de ses bouquins. Il y a la fille aux cheveux noirs, il y a le personnage dickien paumé, mais en même temps beau et innocent. Il y a l'autre personnage dickien masculin qui est le salaud qui a le pouvoir. En gros, c'est très caricatural, mais finalement, c'est cette caricature-là, on va la retrouver dans beaucoup de ses livres. Il y a justement la confrontation entre la culture occidentale et la culture orientale, au travers notamment d'un des personnages, un chinois qui vient un petit peu avant les autres pour voir où ça en est, et puis qui discute philosophie avec un des deux garçons qui sont sur place, et où justement on va retrouver d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve dans le Maître du Château aussi, c'est-à-dire la confrontation entre une phase, enfin, plus que deux cultures, vraiment deux façons de penser le monde différentes. Et donc ils ont cette longue discussion philosophique qui arrête un petit peu l'action du roman, mais qui en soi est très intéressante. Voilà, donc c'est ce genre de thème qu'on va retrouver et qui en quelque sorte vont être ceux qui toute sa vie durant vont le travailler.
Une petite question sur la place de Dick, parce que, évidemment, c'est un auteur culte, hein, aujourd'hui on fait des conférences là-dessus, mais éditorialement et en termes de chiffre de vente, est-ce que c'est encore un auteur important en science-fiction? Est-ce que le fait de sortir et de ressortir ces bouquins-là, c'est pas une bonne affaire, entre guillemets, pour vous, mais est-ce que par rapport à d'autres auteurs que tu publies chez toi, ça reste un auteur majeur?
Oui et non. Oui et non, ça n'a jamais été non plus. Il y a eu des phénomènes ponctuels de grosses ventes de ces bouquins, notamment quand un film sort. Je me rappelle, bah, c'était à l'époque chez Fonio SF avant, et quand était sorti Minority Report, le poche du titre en quelques mois avait été vendu à 40-50 000 exemplaires, ce qui n'est pas non plus une explosion, mais qui est quand même considérable. Donc oui, il y a effectivement ces phénomènes ponctuels. Après, est-ce que Dick est un gros vendeur dans SF? Pas tant que ça. Pour vous donner un ordre d'idée, avant qu'on commence à les rééditer, donc nos deux titres les plus forts commercialement, c'était Le Maître du Haut-Château et Blade Runner, qu'on vendait tous les deux, enfin, respectivement, à 6000 exemplaires par an, à peu près, en poche. Donc voilà, c'est une vente de fond qui tourne bien, mais c'est beaucoup moins que certains titres d'Asimov ou des fleurs pour Algernon, qui est un... Il y a aussi quelque chose qui rentre en ligne de compte, c'est qu'il y a pas mal... Enfin, il y a quelques auteurs de SF dans les livres, je parlais des fleurs pour Algernon, c'est aussi vrai pour Demain les chiens de Slimak, sont prescrits par certains professeurs, par pas mal de professeurs même, et ça, c'est vrai que ça assure des gros niveaux de vente. Dick n'a jamais eu la chance, mais en même temps, quand on voit ce qu'il écrit, c'est un petit peu normal, d'être prescrit chez les scolaires. Peut-être plus à la fac, certes, mais moins dans les classes inférieures.
Et au niveau littéraire, toi qui es éditeur et qui édite différents auteurs, ça reste aussi un auteur important, ou est-ce que c'est daté comme écriture? Qu'est-ce qui fait encore sa force aujourd'hui?
Bah, je crois qu'on en a pas parlé dans la... Désolé,
vraiment, je sais pas,
c'est
un putain, j'ai mis peu de temps et je...
C'est Philippe qui nous raconte le théorie, c'est ça? Disons que ça me sort bien à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que notre conférence met en lumière tout à l'heure, à savoir qu'effectivement il y a cette modernité de Philippe Cadic qui fait que on pouvait le lire il y a 30 ans, on pouvait le lire il y a 20 ans, on peut le lire aujourd'hui, on y trouvera forcément des choses très modernes. Donc non, je pense qu'il ne sera jamais daté. Alors oui, effectivement, il y a d'un point de vue scientifique, oui, parce que comme tous les livres de science-fiction ont créé une époque, c'est le syndrome 1984. 1984, la date est arrivée, et puis il ne s'est pas du tout passé ce qu'il y a dans le bouquin. Et là, c'est un peu la même chose. Évidemment, tous les auteurs de SF imaginent des tas de choses pour le futur, et puis ça n'arrive pas, ou ça arrive différemment. Donc de ce point de vue-là, la science-fiction, elle est forcément ancrée dans l'époque où on écrit. Maintenant, la portée, je parle moins de, comment dire, de la, du décorum que vraiment de la portée philosophique, métaphysique, des romans de beaucoup de romans de science-fiction, y compris Philip K. Dick notamment. Ça, c'est totalement intemporel et ça restera jamais. Oui.
Une petite question sur la suite des événements. Il y a Blade Runner qui arrive, incessamment sous peu. Et alors, c'est quoi la suite du programme?
Alors, il y a encore pas mal de choses à faire. Donc là, effectivement, il y a Blade Runner qui ressort en nouveau millénaire comme le maître du château, avec une nouvelle traduction. On continue aussi les omnibus. Là, donc, vous avez le premier sous les yeux. Le deuxième sort incessamment, là, en début octobre, qui couvrira la période 60-63. Il y a un troisième omnibus qui sortira en prochain pour la période 63-64, qui est une période très prolifique. Et puis après, le quatrième, ce sera la période 65-69. En fait, on va jusqu'à Couler mes larmes, qui chronologiquement est le dernier que nous publions. Après, c'est la trilogie divine. La trilogie divine, ça reste chez De Noël. En termes de chef-d'œuvre retraduit, il y aura également le Dieu venu du Centaure. Il y aura Couler mes larmes, donc j'en parlais, qui lui sera pas dans les omnibus, mais séparé. Il y aura Confession d'un margeau, qui n'aura peut-être pas d'ailleurs ce titre, on est encore en train de. C'est un titre très, très difficile à traduire. Et puis après, il y a encore des romans de littérature générale à sortir, mais directement en poche et en collection de littérature générale. Et puis surtout, il y a l'exégèse. Alors l'exégèse, je pense que vous savez tous, enfin, si vous êtes ici, c'est que vous devez tous savoir ce que c'est. Vous en avez parlé d'accord. Donc il y a une version éditée de l'exégèse qui est en train de sortir aux États-Unis. Donc le premier volume est déjà paru, donc on attend un deuxième volume. édité par Jonathan Lethem et une universitaire, Pamela Jackson, si je peux le dire. Qui compile ces 8000 pages de notes et de réflexions en quelque chose comme 800 pages avec beaucoup de commentaires. Donc c'est ça qu'on va publier en français. Ça devrait, si tout se passe bien, être pour 2014. On est très très vague sur les dates parce que la traductrice qui travaille dessus, Hélène Colomb, qui est certainement la traductrice la plus au fait de la chose dickienne, elle nous dit que chaque ligne lui demande énormément de recherche. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement long et extrêmement festif. Enfin, c'est passionnant. Mais voilà, elle nous dit qu'elle avance très 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 lentement, donc je préfère pas encore du tout annoncer la date de sortie, ça sortira quand ça sera prêt.
Peut-être un premier retour d'expérience sur ces premiers titres qui viennent de sortir, ça serait quand même quelques mois. Quel est ton premier bilan sur est-ce que rééditer Dick aujourd'hui ça fonctionne, est-ce que tu es content de comment ça se passe?
Alors, de toute façon, je suis content. Après, les patrons, on ne sait rien, mais moi, je suis content parce que j'ai envie de les faire. Comment ça se passe? Ça se passe très très bien sur le maître du Haut-Château. On a été très agréablement surpris de voir que le livre suscitait beaucoup de réactions, à la fois dans la presse, mais auprès des libraires, que les lecteurs ont bien suivi. Pour donner un ordre d'idée, quand on fait des livres, on se fixe des objectifs de vente à 12 mois, à 18 mois, à 24 mois, ça dépend. Et là, il se trouve qu'en moins de 6 mois, on a fait quasiment deux fois ce qu'on avait prévu de faire sur 12 mois. Ce qui est quand même assez rare en termes de science-fiction. Donc, on est très content. Sur les omnibus, sur l'omnibus qui est sorti, c'est moins flagrant parce que c'est un bouquin qui est beaucoup plus cher, parce que ça rassemble des titres qui sont moins forts, évidemment, que le Maître du Château. Mais surtout, moi, ce qui m'a scotché, c'est les réactions que ça a suscité dans la presse, parce que ça a intéressé énormément de supports, y compris les supports généralistes. On n'a pas l'habitude dans nos littératures que France Inter vous appelle un matin pour dire « Ah ouais, trop bien, je voudrais faire l'interview. Hein. » Ouais, d'accord. Ou France Info, voilà. On a eu une double page dans Libé, on a eu plein de journaux régionaux aussi. Et les journalistes qui écrivaient ces papiers, ça c'était intéressant de noter, s'adressaient à des non-lecteurs de tête, c'est-à-dire à leur lectorat habituel, et en s'adressant à eux comme s'ils connaissaient. C'est-à-dire que finalement, c'est là qu'on s'aperçoit que nous, on est peut-être un petit peu dans notre bulle, on connaît bien Dick, évidemment, mais finalement, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a plein de gens, même dans un public non averti, qui connaissent au moins quelques-uns de ces livres. Et bon, je pense qu'évidemment, c'est le nombre assez conséquent d'adaptations cinématographiques qui fait qu'au bout d'un moment, les gens finissent par retenir son nom. Mais pas seulement, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça faisait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a une bonne part des lecteurs qui s'intéressent à lui.
Est-ce que quelqu'un a des questions à poser à Thibault Lirhoff ? Profitez-en, c'est le moment, sur cette aventure éditoriale. Est-ce qu'on passe à la suite ? Une fois, deux fois, trois fois.
Oui. Je ne suis pas sûr qu'il ait répondu, mais est-ce que Blade Runner, c'est une retraduction aussi ?
Oui, le livre est entièrement retraduit par Sébastien Guillot. Et là aussi, effectivement, en travaillant d'abord sur la version existante, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de contresens, qu'il manquait un petit peu de texte aussi. Et voilà, donc, je pense que ça pourra pas forcément de redécouvrir le livre, parce que je pense que c'est moins flagrant que ce qui s'était passé sur le Maître du Château. Mais bon, ça permet de le lire vraiment dans de bonnes conditions. Et puis ce qui est intéressant, c'est que les gens qui ne connaissent pas encore le livre vont le découvrir, eux, dans les meilleures conditions.
Est-ce que quelqu'un a une autre question ?
Est-ce qu'il y a des formats numériques pour les ressorties ?
Alors, c'est en cours. C'est-à-dire que le marché numérique étant ce qu'il est actuellement, et étant, on va dire, encore moins avancé qu'aujourd'hui, il y a 2 ans de ça, au moment où on a commencé à négocier les droits. Et les agents étrangers étaient très frileux, ils savaient tout ce qui allait se passer sur le marché français. Donc beaucoup d'agents ont simplement signé des contrats numériques pour 2 ans, en disant dans 2 ans on renégocie, on voit comment ça se passe et puis on refait le point. Les agents de Dick n'ont pas été aussi aventuriers, ils ont juste simplement dit on attend de voir comment ça se passe en France pour le numérique et puis après on commencera à parler de droits de Philippe K. Dick. Donc voilà, tout ça est en discussion, c'est malheureusement pas pour tout de suite parce qu'il faut que ça se fasse.
Alors vous discutez, ils sont déjà piratés.
Bah évidemment.
Allez, moi je vais lancer une question, alors pas très bâtard, mais pourquoi est-ce que vous êtes parti du principe que les chefs-d'œuvre de Dick étaient ceux qu'on appelle et qu'on considère de manière générale comme des chefs-d'œuvre ? C'est-à-dire qu'un bouquin comme Le Temps des Intitulés, par exemple, qui est un roman à mon sens assez exceptionnel. Et je dirais même que certains romans de série Z, comme Les Chaînes de l'Avenir de Dick, méritent, lorsqu'on les lit, avec des passages absolument hallucinants. Dans Les Chaînes de l'Avenir, il y a un dialogue sur le relativisme, entre un flic du relativisme et sa femme qui est contre, qui est dans la logique donc, du grand prophète, face à un spectacle, un spectacle érotique avec un hybride, je crois, un transsexuel, je sais pas, un truc, mais. Un moment absolument incroyable. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas vous-même décidé que le chef-d'œuvre n'était pas forcément celui qui était dit comme chef-d'œuvre ?
C'est une très bonne question. effectivement, déjà il faut faire un choix. Parce que on pouvait pas ressortir 38 romans avec une nouvelle traduction en millénaire, sinon. Sinon on fait plus que ça, d'une part, et puis d'autre part, il faut aussi, à un moment, il faut aussi limiter le truc, parce que les libraires n'ont pas une capacité d'absorption aussi vaste que 38 romans de Philippe K. Dick en 2 ans. Ensuite, il y avait aussi cette idée que si on sort vraiment tous les romans les plus intéressants des omnibus, il ne reste plus grand-chose dedans, et je ne suis pas sûr que ça fasse des omnibus très intéressants non plus. C'est-à-dire que si on les habille trop, finalement, ils se retrouvent à poil, quelque part.
Pour prendre un autre exemple, bon, il n'est pas dans le premier, mais Le Guérisseur des Cathédrales.
Tout à fait.
Est un roman absolument magnifique, absolument magique. Et je considère, en tout cas, c'est vrai que j'aurais aimé, justement, qu'il y ait quelques-uns des romans méconnus de Dick qui soient sortis avec l'importance que vous avez donnée au Maître du Château. Et j'avoue le regretter de manière assez profonde.
Alors, il faut savoir que tous les romans qui sont dans les omnibus ressortiront ensuite en poche, séparément. Donc, c'est ici, donc. Et donc, évidemment, on pourra à terme les trouver comme ça.
Est-ce qu'on aurait dû accorder à tous la même importance pour le quatrième film? Dans l'absolu, oui. Dans l'absolu, oui, parce qu'effectivement, il y a des romans méconnus qu'on aurait pu en plus avoir ce plaisir à faire connaître. Mais voilà, il faut faire des choix. On a fait les choix qui sont peut-être les plus consensuels, c'est pas faux. Mais il fallait faire des choix. Voilà.
Il y a tous au guérisseur de cathédrale qui est absolument introuvable, hein, aujourd'hui. Il est juste trouvable dans l'Omnibus, mais c'est un roman absolument incroyable, type, une poésie absolument inouïe, et surtout qui, devant, qui présente des éléments d'anticipation aussi, bizarrement, assez fous, comme l'échelle de l'avenir, où aujourd'hui, on sait que le contrôle fonctionne sur le temps. Dans la vraie logique de justement la question de l'anticipation par le temps et du contrôle par le temps.
Bah, je précise qu'au départ, le Dieu Vénus Centaure aurait dû figurer au sommaire du troisième omnibus, et puis que c'est tardivement que justement on a préféré le sortir pour. Donc voilà, on n'est pas non plus fermé à la discussion.
Je sais que c'est dur de vendre des bouquins, mais en général aujourd'hui.
Est-ce qu'on attend pour une dernière question? Une fois, deux fois, trois fois. Alors, restez là parce qu'on va avoir une lecture de trop avec David Fischer et Aurélien Léon. Et on va remercier Thibaut Liroff d'être venu répondre à vos questions. Merci.